Vous écoutez, on lit pour vous.
L'angoisse identitaire et son antidote, un texte d'Alexandre Sirois, paru le 14 janvier 2024 dans la presse. Ce qu'on n'explique pas assez souvent, nous, les journalistes, c'est à quel point il est parfois difficile de mettre en ordre les propos recueillis lors d'une entrevue. Un exemple? J'ai passé récemment 2 heures avec Jonathan Livernois, auteur d'une biographie sur le politicien Gérald Godin, qu'on décrivait comme un député poète. Nous avons parlé de ce livre, mais également d'un paquet de sujets pertinents sur lesquels il s'est penché au cours de la dernière décennie. Alors, avec quoi je démarre pour vous raconter tout ça? J'opte pour Le grand massacre des chats. C'est ce qui m'a permis de comprendre ce qui sert de carburant au moteur intellectuel de Jonathan Livernois, ce gars qui ressemble davantage à un hipster du Mile End qu'à l'idée qu'on se fait d'un universitaire spécialiste des liens entre la littérature et la politique. Ça nécessite certaines explications, je m'en rends bien compte. Les voici. Jonathan Livernois aime beaucoup l'historien américain Robert Darnton. Il apprécie tout particulièrement la façon originale utilisée par cet universitaire pour examiner les attitudes et croyances en France au XVIIIe siècle. Darnton s'est dit « Qu'est-ce que je dois faire pour comprendre une telle civilisation ?» m'a raconté celui qui enseigne à l'Université Laval depuis 2013. Sa solution? Il a étudié l'affaire la plus foquée qui soit, à savoir ce qu'il trouve dans les mémoires d'un imprimeur qui dit « Quand j'étais jeune, on avait massacré plein de chats et c'était vraiment drôle », ce qui est, à notre époque, difficilement concevable. En somme, pour nous éclairer sur la société française d'alors, l'historien américain prend l'élément le plus surprenant, explique Jonathan Livernois. Intellectuel engagé. À l'image de Robert Downton, Jonathan Livernois m'a dit que le point de départ de son essai précédent, Entre deux feux, est quelque chose qui l'a vraiment surpris. C'est un livre qui porte sur les liens entre la politique et la littérature au Québec au cours des siècles derniers. En abordant ce sujet, l'auteur a appris qu'Honoré Mercier, premier ministre du Québec de 1887 à 1891, a déjà été interpellé par le chef de l'opposition qui lui reprochait la liste des livres achetés par son gouvernement. À l'époque, il n'y avait pas de subventions, alors le gouvernement achetait des livres pour les distribuer aux députés, aux ministères, etc., explique-t-il. Ce qui m'a sidéré, c'est de voir Honoré Mercier se lever en chambre et défendre chaque titre de la liste. Et de le voir se dire écrivain, alors que ce n'était pas un écrivain. Ça m'a vraiment fascinée. Je me suis dit, comment ça se fait qu'il y a une telle proximité entre le politique et le littéraire au 19e siècle? Et il en a tiré un livre. La publication de la biographie de Gérald Godin relève d'une logique assez similaire. C'est l'étonnement qui, à la base, a guidé Jonathan Livernois. Élu à l'Assemblée nationale en 1976, Gérald Godin a été le premier vrai littéraire d'importance à s'y retrouver depuis Félix-Gabriel Marchand. Celui-ci était premier ministre du Québec et il est mort en exercice en 1900. « Ça m'a intrigué », lance l'auteur. « Je n'utilise pas le verbe « lancer » par hasard. Jonathan Livernois est un gars affable qui parle avec passion et avec bagou des sujets qu'il étudie. L'histoire des idées au Québec, ce qui le branche par-dessus tout, est un sujet plutôt pointu. Mais tout ce qu'il raconte, il le fait avec un tel enthousiasme et un tel talent pour la vulgarisation que celui qui l'écoute est forcément captivé. Peut-être parce qu'il garde cette capacité de s'émerveiller et de s'étonner face à tout ce qu'il observe. Peut-être aussi parce que ce professeur, né à Saint-Constant, il habite aujourd'hui une maison ancestrale à Deschambault, dans la région de Québec, ne vient pas d'un milieu universitaire et d'y avoir une réaction épidermique à l'égard du snobisme. Peut-être, enfin, parce que celui qui me donne rendez-vous dans un café de la Petite Italie compte parmi ses héros le regretté sociologue Fernand Dumont, avec René Lévesque et Jean Jaurès. Il s'en inspire et souhaite être, comme lui, un intellectuel engagé. J'aime le travail universitaire, la recherche et tout ça, mais je trouve que ça demeure un peu vain sans le travail que je fais de transfert de connaissances, comme on dit dans les demandes de subventions, et en même temps, ce travail d'essayiste, dit Jonathan Livernois. Il se considère comme extrêmement chanceux d'exercer le métier de professeur d'université, et ça paraît. C'est aussi, à mon sens, un des jeunes intellectuels québécois, il a 41 ans, dont les œuvres publiées au cours de la dernière décennie ont été les plus stimulantes. Vous écoutez « L'angoisse identitaire et son antidote », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 14 janvier 2024 dans la presse. Godin et Catherine Dorion. Mais revenons à Gérald Godin. Est-ce qu'il était vraiment un poète perdu en politique? C'est aussi pour ça que je me suis intéressée au personnage. C'était une combinaison, là encore, pour le moins étonnante. La réponse à cette question, je la connaissais. Gérald Godin était tout sauf perdu. L'universitaire l'explique dans sa biographie. C'était un politicien jusqu'au bout des doigts, renchérit l'expert. Pourquoi il faudrait que ça s'oppose, politique et poésie? Questionne Jonathan Livernois. Jonathan Livernois aborde alors le sujet de la députée solidaire Catherine Dorion, qui a dit tout le mal qu'elle pense de son séjour en politique. Dans son livre récent, « Les têtes brûlées », elle oppose les deux, systématiquement, comme si elle ne trouvait pas sa place, signale-t-il. Il reconnaît que le climat au Parlement n'est peut-être pas le même que dans les années 1970, mais souligne que Godin comprenait l'importance des procédures à Québec. Sa vision très humaniste, il a réussi à la faire passer dans des formes prédéterminées, prédéfinies, alors que Catherine Dorion n'a pas été capable de faire ça. Il ajoute que chez Godin, la politique alimentait la poésie et la poésie alimentait la politique. Il y a toutefois d'autres raisons pour lesquelles le professeur de l'Université Laval s'est intéressé à Gérald Godin au point d'y consacrer 3 ans de sa vie presque à temps plein. C'est aussi, m'a-t-il dit, que le député poète a été à la source d'un de ses premiers sentiments nationalistes. Ça s'est produit lorsqu'il a vu le documentaire Québec, un peu, beaucoup passionnément, au sujet de Gérald Godin et de sa conjointe, la chanteuse Pauline Julien. On suit leur trajectoire et il y a aussi l'histoire du Québec là-dedans. C'est pas subtil, mais c'est intéressant. Et je me souviens d'avoir été marquée par ce couple-là. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Nationalisme identitaire. Il est clair également que la vision du nationalisme épousée par Gérald Godin résonne chez Jonathan Livernois. Il était le champion de la diversité au sein du gouvernement de René Lévesque, rappelle l'auteur dès les premières pages de la biographie. On a d'ailleurs immortalisé sur un mur, tout près du métro Mont-Royal, un de ses poèmes où il parle des immigrants qui font battre le vieux cœur de Montréal. Je présumais que le choix de la députée solidaire Rouba Ghazal pour signer la préface de son livre n'était pas anodin. Il le confirme. Il a lui-même contacté la députée de Mercier, la même circonscription que Gérald Godin à l'époque. Une Palestinienne née au Liban, enfant de la loi 101, qui arrive ici à 12 ans et qui apprend le français. Je lui ai dit « Pour moi, c'est clair, tu représentes parfaitement l'esprit de Godin. » Dans le même ordre d'idées, j'aborde, avec Jonathan Livernois, ce qu'il a écrit dans son essai « La route du pays brûlé » en 2016. Le fait qu'il se sentait un peu moins souverainiste par les temps qui courent. C'était le cas 3 ans après la charte des valeurs du Parti québécois, en raison du repli inquiétant des souverainistes. Je lui demande ce qu'il pense du constat de la journaliste Francine Pelletier. Dans un essai récent, « Au Québec, c'est comme ça qu'on vit », paru chez Luxe, elle parle d'une longue bascule qui a mené le Québec du nationalisme progressiste de René Lévesque au nationalisme identitaire en vogue aujourd'hui. C'est une vision que je partage, me dit Jonathan Livernois. Peut-être que des fois, c'est un peu carré, mais globalement, je suis assez d'accord avec elle. Je n'en finis plus de compter les gens qui me disent à propos de Godin « C'était l'image même du PQ, c'est ce qu'on voulait, mais c'est plus ça, pantoute. » Ce sont beaucoup des gens qui sont allés vers Québec solidaire, mais qui ne sont pas tout à fait satisfaits de Québec solidaire, pense Jonathan Livernois. Je lui fais remarquer que l'angoisse identitaire qui caractérise notre époque, à laquelle Gérald Godin était autrefois un antidote, a contribué à l'élection de Donald Trump et de plusieurs autres politiciens ces dernières années. Et que ça demeure une recette pour le succès en politique de nos jours. Oui, tout à fait, admet-il. Mais est-ce qu'on veut des politiciens qui réussissent comme ça? Est-ce qu'on se souhaite ça? La recette est là, et je comprends qu'elle fonctionne. Mais mon Dieu que c'est déprimant! Qui est Jonathan Livernois? Né en 1982 à Saint-Constant, il termine en 2004 son baccalauréat en études françaises et philosophie à l'Université de Montréal. Il fait par la suite une maîtrise et un doctorat en langue et littérature française à l'Université McGill. En 2013, il devient professeur à l'Université Laval, où il est actuellement directeur du programme de baccalauréat en études et pratiques littéraires. Il a publié au cours des dernières années plusieurs essais, dont « La révolution dans l'ordre, une histoire du duplessisme » en 2018 et l'an dernier « La biographie de Gérald Godin ». C'était « L'angoisse identitaire et son antidote », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 14 janvier 2024 dans la presse.
Les vrais laguioles viennent de laguioles. Un texte de Fabrice de Pierrebourg, paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine L'Actualité. L'initiative du patron du restaurant traditionnel L'Aubrac, au centre du village de Laguiole, mettre sur les tables des couteaux au nom indissociable de sa commune du sud de la France, a tourné court. Je m'en suis fait voler une centaine en 2 semaines par des clients, se souvient, encore dépité, Vincent Favier. Car les couteaux de l'aïole, prononcé l'aïole, le monde se les arrache. Lorsqu'au début du 19e siècle, un forgeron du village a façonné pour les paysans locaux un couteau pliant, tranchant comme un rasoir, il n'imaginait certainement pas que sa création connaîtrait une telle popularité deux siècles plus tard. Le couteau s'est décliné depuis en de multiples variantes qui vont de la version que l'on traîne dans sa poche à partir d'une centaine d'euros à des modèles de table plus luxueux, imaginés par des designers réputés jusqu'à quelques milliers d'euros, adoptés par des restaurants étoilés. Sans oublier l'incontournable tire-bouchon de sommelier créé dans les années 1880. Le nom « la gueule » n'a cependant jamais été protégé, pas plus que le style de ce couteau du terroir, reconnaissable à sa forme cambrée, sa lame pointue et l'abeille emblématique finement ciselée, positionnée à la jonction du manche et de la lame. Le monde entier, y compris le Québec, est donc inondé d'imitations bas de gamme, fabriquées à la chaîne en Chine ou au Pakistan, et vendu à des prix dérisoires, de 5 à 7 $, ou faussement présenté comme produite en France et commercialisé à des prix plus élevés. Ou encore, dans le meilleur des cas, il s'agit de modèles plus traditionnels provenant par exemple de Thiers, ville du nord-est de l'Auvergne. Le consommateur peine à s'y retrouver, déplore Honoré Durand, patron de l'entreprise de coutellerie familiale homonyme fondée par ses parents dans les années 1980. Président du syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de l'aïole, il mène avec la municipalité un combat digne du village d'Astérix contre la mondialisation pour que l'État français crée une indication géographique, IG, couteau de l'aïole, ce qui impliquerait qu'un couteau marqué l'aïole soit produit localement et selon un cahier des charges strict. Au même titre, par exemple, que la porcelaine de Limoges. Or, en septembre 2022, l'Institut national de la propriété industrielle français a officialisé la création d'une IG couteau-l'aïole. Exit le « de ». Elle s'applique aux produits d'une soixantaine de coutelleries situées dans 94 communes et 6 départements, soit dans une zone de quelque 300 km² englobant la ville de Thiers, dont les entreprises coutelières sont en concurrence avec celles de l'aïole à près de 180 km de distance. Un peu comme si des couteaux dits de Drummondville étaient fabriqués à Québec. Une hérésie mêlée d'affront pour ce village de 1300 habitants avec ses maisons austères aux murs en basalte et aux toits couverts de pierres plates, l'ose, blottis entre des pâturages d'altitude où paissent les célèbres vaches à cornes de l'Aubrac, prisées des amateurs de viande. Chaque année, l'aïole accueille de 250 000 à 300 000 touristes, dont des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, attirés par ses paysages et ses spécialités du terroir, en particulier l'aligot, mélange gargantuesque de purée de pommes de terre, crème et fromage de l'aïole, une autre fierté locale. Et bien sûr, les couteaux contribuent à cet attrait. Se battre pour protéger la paternité du l'aïole est vital pour la survie économique de sa commune, plaide le maire Vincent Alazar, un truculent éleveur de bovins à l'accent méridional. Même si toutes ces procédures coûtent cher et lui cause beaucoup de stress. Fier de ses racines, cet enfant du pays ne décolère pas contre ceux qui s'approprient un produit qui porte le nom de son village, sa notoriété et un savoir-faire transmis par ses aïeux. Chez Honoré Durand, une vingtaine de forgerons et de couteliers produisent, un à un, près de 20 000 couteaux par an. Jusqu'à une centaine d'opérations, de la fabrication des pièces, lames, ressorts, manches, abeilles, mitres, etc., au montage, échelonnés en moyenne sur 2 mois, sont nécessaires. Chaque coutelier façonne patiemment son couteau à la main, ce qui fait des laguioles des objets uniques. Assis devant son établi en bois, lunettes presque sur le bout du nez, Dylan, 26 ans, trie avec minutie, en fonction de leur veinage, de petites plaquettes rectangulaires de bois d'olivier destinées à devenir les manches. 2 plaquettes par manche, d'un lot de couteaux qu'il doit assembler. « C'est un bois qui sent bon », souffle-t-il sans les quitter des yeux. L'artisan, qui est parti de Paris il y a 1 an et a abandonné des emplois dans des usines et la restauration pour se reconvertir dans la coutellerie, considère que c'est le métier le plus difficile qu'il ait exercé. Certaines opérations lors du montage se font au millimètre près. Il faut être très méticuleux. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Dylan admire ses collègues les plus expérimentés, aux gestes sûrs et précis, capables de repérer le moindre défaut. Des virtuoses qui font appel à l'acuité de leur sens tactile et visuel pour façonner leur couteau petit à petit, à l'œil, sans gabarit, sur des bandes abrasives, rotatives, à différents grains, jusqu'à la forme voulue. Dans un secteur plus en retrait, Denis, un des forgerons, fabrique des lames dites « damas », reconnaissables à leurs motifs moirés, raffinées. Elles sont constituées de nombreuses couches, 320, de plaques d'acier étirées, pliées, soudées et superposées comme un millefeuille. Une technique doublement millénaire. Casque anti-bruit collé sur les oreilles pour se protéger du vacarme, Denis manipule avec précaution, devant des visiteurs ébahis, le métal incandescent chauffé à près de 1300 degrés centigrades qu'il forge ensuite sous un marteau-pilon pneumatique qui le frappe tel un métronome au milieu d'une nuée d'étincelles. Jean-Michel Quéron, lui, a son atelier au centre du village. « Je travaille à la demande », explique cet artisan coutelier à son compte depuis 6 ans. Je ne fais jamais la même chose, que du bonheur chaque jour, dit-il, dans sa veste au col tricolore d'un des meilleurs ouvriers de France, concours prestigieux gagné 2 fois dans la catégorie coutellerie en 2007 et en 2011. Ce titre, c'est le 3 étoiles Michelin du couteau, s'amuse-t-il. Ce solitaire qui conçoit et assemble ses couteaux dans un local boutique exigu, partagé avec son épouse, créatrice de bijoux, n'a aucun site Internet, ne fait aucune publicité, et pourtant, son carnet de commandes est rempli pour 2 ans. À raison de 250 couteaux par an. Un vrai laguiole, c'est comme une montre, ça se garde une vie et se transmet à ses enfants. J'ai toujours celui de mon père et de mon grand-père. Il a donc une opinion discordante lorsque l'on aborde la saga juridique qui agite son village et les copies de l'étranger. Un faux problème, estime-t-il. Celui qui s'achète une copie à 10 euros ne dépenserait jamais pour un vrai laguiole à 100 ou 200 euros. À la forge de Laguiol, on mise justement sur les visites organisées dans ces ateliers, comme chez le voisin Honoré Durand, pour que le public se rende compte du travail et du temps requis pour élaborer un vrai Laguiol et pour qu'ils comprennent que cette qualité se paie. Fondée en 1987, cette coutellerie est réputée pour ses partenariats mêlant innovation et tradition avec des designers célèbres, dont Philippe Starck, connu entre autres pour ses créations d'objets du quotidien et de décors de restaurants, qui a imaginé des pièces d'exception. Il a notamment conçu un Laguiol en aluminium poli dont un exemplaire est exposé au Musée d'art moderne de New York, MoMA. Il a également dessiné l'architecture aux lignes épurées de l'atelier boutique de l'entreprise, surmonté d'une lame géante élancée vers le ciel de l'Aubrac. À l'intérieur de ce cocon bâti sur un plateau dominant la campagne, une quarantaine de couteliers perpétuent eux aussi cette tradition ancestrale produisant environ 80 000 couteaux par an. Beaucoup de jeunes y travaillent en tandem avec des anciens qui transmettent leur savoir-faire. Comme Daniel, 49 ans et 25 ans d'expérience, assis à côté de Damien, 31 ans. Pour ce dernier, ex-gendarme, puis ex-maraîcher dans le sud de la France, il n'y a rien de plus plaisant que de voir un couteau prendre forme entre ses doigts ou même de toucher un couteau terminé, mais pas encore poli. Selon son mentor, qui se dit presque capable de tourner un couteau les yeux fermés, il lui faudra une dizaine d'années pour être au top. Laguiol n'a pas gagné la première manche pour l'obtention de son IG, mais un recours devant la cour d'appel a été déposé par le syndicat des couteliers. La suite est prévue pour avril 2024. En attendant, c'est le bazar. Lâche Honoré Durand. C'était Les vrais Laguiol viennent de Laguiol. Un texte de Fabrice de Pierrebourg, paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine L'Actualité.